Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Alors j'ai récemment été sollicité par des radios partenaires afin de réaliser une émission spéciale au féminin. C'est pourquoi je vais laisser les clés des 25 prochaines minutes à Margot qui, sans perdre un instant supplémentaire, va vous donner le programme de l'émission du jour.
Bonjour, je vais vous emmener à la rencontre de 13 femmes qui ont en commun le fait d'habiter en Cévennes au moment où elles ont voulu avorter. Moi, je m'appelle Margot, je suis en service civique au planning familial Sud-Ardèche. Et ce que vous êtes en train d'écouter est un projet qui s'inscrit à la croisée des chemins entre mon envie de faire du documentaire audio sur un sujet qui touche au vécu des femmes et l'équipe du planning qui porte depuis longtemps une attention particulière aux conditions d'accès à l'IVG en milieu rural. Cette convergence d'intérêts nous a amené à construire une série de 5 épisodes, dont celui-ci est le premier. Nous voulions donner la parole aux femmes qui ont expérimenté ce qu'est de faire une IVG, pour que celles qui l'ont vécu dans leur corps et leur tête puissent se réapproprier collectivement cet événement. Il est aussi important de montrer qu'il y avait une diversité de vécus possibles. Enfin, nous avions à cœur de sensibiliser à l'accompagnement et à l'écoute des besoins des personnes qui se retrouveraient dans cette situation. Alors pour commencer l'histoire, il faut reprendre depuis le début. On va entendre ici la complexité des trajectoires contraceptives et découvrir en même temps que ces femmes comment on se rend compte que l'on est enceinte d'une grossesse dont on n'a pas envie.
Voilà, je pense que vous savez tout. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin de l'émission afin de vous dire au revoir.
Quand je regarde mon parcours contraceptif, je pourrais dire qu'il a l'air plutôt classique. Au début de ma vie sexuelle, j'ai utilisé des préservatifs externes, puis parce que j'étais en couple, j'ai pris la pilule. De toute façon, on ne me parlait pas d'autres contraceptifs. Lorsque j'en ai eu marre, j'ai voulu me faire poser un stérilet. Bon, j'avais 20 ans, et j'ai mis environ un an, où je n'avais plus de contraception, à y parvenir. Je vous passe les détails. Heureusement, il me convient très bien, et depuis sa pose, je n'ai plus à penser à ma contraception. Au regard des femmes que j'ai rencontrées, cette question a rarement été aussi simple que pour moi. Donc je dirais qu'en fait, j'ai plutôt été chanceuse dans mon parcours contraceptif. Bien qu'il soit loin d'être fini, il faut encore que je tienne jusqu'à la ménopause. C'est pourquoi il me semble primordial de replacer les expériences d'IVG dans leur contexte, en entendant le poids que pèse cette charge mentale sur les femmes. Parce qu'au regard d'environ 35 ans de fertilité, attendre un sans-faute viendrait probablement de quelqu'un qui n'a jamais eu à se préoccuper de sa contraception.
J'ai commencé à prendre la pilule à 18 ans. Je l'ai prise pendant 6 mois seulement parce que ça ne me convenait pas. Je la prenais n'importe comment. Après ça, j'ai arrêté et j'ai rien eu pendant très longtemps. C'était avec des préservatifs, en fait, ou la pilule du lendemain. À 27 ans, j'ai commencé à mettre un stérilet au cuivre. Vraiment, je me suis dit que j'allais le garder pendant un an pour tester, parce que dès le début, ça ne fonctionnait pas du tout. J'avais des règles qui duraient super longtemps. Je sentais un malaise à l'intérieur de moi. Et du coup, je me suis quand même dit que c'était l'idéal. Donc, je l'ai quand même gardé un an. Après, je n'ai plus rien eu. La plupart du temps, c'était le retrait. Parfois, un préservatif ou parfois la pilule du lendemain. Je l'ai prise beaucoup de fois. Et depuis 2 mois, j'ai l'anneau contraceptif. Ça apporte une légèreté. En fait, pour moi, c'est une question, mais angoissante, la contraception. Parce que rien ne me convient. Chaque choix, c'est je vais choisir le moins pire, en fait.
Lorsqu'on te renvoie, de toute manière, soit un vrai moyen de contraception. Moi, il n'y a rien qui me convient. Bah oui, mais estimez-vous heureuse, parce qu'aujourd'hui, déjà, vous avez plusieurs solutions. Et vraiment, c'est de ne pas mettre du sien, ouais, que de ne pas trouver son compte là-dedans. Ouais, ouais, alors que non, pas du tout. Enfin, moi, j'y mets grave du mien, puisque c'est une contrainte pour moi quotidienne, ouais, quasiment. Donc, de fait, moi, je prends ce truc-là en main, mais aussi, j'essaye beaucoup d'impliquer les hommes là-dedans et dans la réflexion et dans le truc de concrètement. Mais toi aussi, t'es impliquée, en fait.
Ben moi, pareil. Enfin, voilà, essayer de trouver un peu des alternatives, mais sans grande conviction. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment tournée vers la ligature des trompes. C'est aussi un problème de mise à disposition de la contraception en France. et de ce truc que j'ai vraiment envie de prendre en main, enfin les choses pour plus tomber enceinte parce que je veux plus d'enfants aujourd'hui. Du coup, voilà, et que moi, j'attends plus, en tout cas, trop après les hommes qui prennent ça en main parce que, en fait, la société, leur, y a rien qui... tu vois, tous les 5 ans, en fait, on te sort « Ah, ça y est, enfin, la pilule pour hommes !» Et en fait, c'est pas commercialisé parce qu'il y a des effets secondaires. Enfin,
je voyais quelqu'un régulièrement. Et donc, lui refusait... Enfin, ça lui fait porter toute la responsabilité. Refuser le préservatif, je voulais pas prendre de la pilule parce que je voyais que de temps en temps. Et du coup, je prenais la pilule du lendemain. Du coup, j'avais l'impression que quand tu as accès à de l'information sur la contraception, on te donne un peu un espèce de modèle idéal à suivre. Les gens sérieux font comme ça. Et que, comme je le suivais pas, je me sentais forcément moins bien. Mais en gros, j'ai l'impression que ce soit par la contraception où je me sentais pas à l'aise avec l'idée de prendre la pilule ou d'avoir une contraception tout le temps alors que j'avais pas de relation tout le temps, ou par rapport même au fait de ma sexualité à ce moment-là qui était, j'allais dire chaotique, mais en tout cas, voilà, j'avais pas de relation longue. Du coup, j'avais l'impression de pas correspondre au schéma attendu. Je pense que peut-être cette culpabilité vis-à-vis de la contraception, c'était aussi peut-être une culpabilité vis-à-vis de ma sexualité en général. Et en plus, j'ai du mal à imposer quoi que ce soit à mes partenaires dans le genre préservatif. Parce que je me dis, peut-être ils vont se barrer du coup si j'impose un préservatif. Enfin, je sais que c'est un défaut de ma part. Et du coup, je culpabilise peut-être aussi de ça. Du coup, peut-être le truc de l'IVG, c'était un petit peu la suite logique de toutes ces choses que je faisais mal. C'est horrible dit comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais, ou que je le ressens toujours.
Dans les témoignages de ces femmes, j'ai remarqué à quel point leur parcours contraceptif s'entremêle avec leurs IVG. Pourtant, j'ai l'impression que la corrélation entre contraception et IVG est souvent invisibilisée, comme s'il fallait éviter de parler des difficultés de contraception. Ça relève de l'intime. Et pourtant, c'est politique, puisqu'éviter de parler de ça, c'est refuser d'accompagner correctement les femmes qui veulent faire une IVG. C'est pour ça que dans l'espace de ce podcast, je souhaite redonner de la visibilité aux petits événements qui sont rarement relatés et qui pourtant permettent de comprendre pourquoi une IVG est vécue comme ceci ou cela. Dans ce qui va suivre, vous allez découvrir ce premier moment où elles apprennent à être enceintes. Commençons d'abord par les sensations qui mettent la puce à l'oreille. Si toutes les femmes qui ont témoigné ont pu nommer des symptômes associés à leur début de grossesse, ils n'ont pas tous été les mêmes ou de même intensité. Vous allez entendre quelques-unes de ces femmes qui racontent les leurs.
Avant le moment où je devais bientôt avoir mes règles, j'ai capté que j'avais des symptômes hyper forts. J'ai refait le lien avec un rapport sexuel que j'avais eu après mon ovulation et où concrètement, je me rendais compte que j'avais craqué dans un moment de folie. Et du coup, genre, juste avant le début de mes règles, je commençais direct à me dire « Ok, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas parce que je chantais mes seins qui avaient gonflé de ouf, qui me faisaient mal, je chantais qu'il se passait des trucs dans mon bide, je recommençais à avoir des douleurs dans le bas du dos. Et puis je chantais qu'émotionnellement aussi, j'avais quelque chose d'hyper instable et une libido plus. Enfin, genre, je commençais à capter qu'il y avait trop de trucs en même temps qui étaient bizarres. Et du coup, à ce moment-là, je suis allée choper un test de grossesse et en fait, elle avait marqué positif.
Je savais que le fait d'être enceinte, ça avait une influence sur l'odorat. Et je sentais toutes les odeurs hyper fortes. Je ne pouvais plus aller dans le tram ou quoi, enfin, c'était horrible. Mais du coup, c'était ça combiné au retard de mes règles. Je me suis dit, un test de grossesse, bon voilà.
C'était bizarre, mais ça m'a fait cet effet à chaque fois que je suis tombée enceinte. de la seconde où je me rends compte que je suis enceinte, je ne veux plus que mon amoureux m'approche. Et en fait, c'est même ça, des fois. Une fois, c'est ça qui m'a fait commencer à me poser la question. Merde, est-ce que je suis pas enceinte? En fait, c'est parce que d'un coup, j'ai une répulsion vis-à-vis de mon amoureux qui est assez incroyable. Et je ne l'ai pas encore expliqué, ça. C'est assez étrange. Ça me fait un peu flipper, d'ailleurs, pour le jour où j'aurai vraiment envie d'avoir des enfants, parce que ça se trouve, j'aurais plus envie que mon amoureux m'approche. Mais je pense que à partir du moment où c'est un... ça arrive comme une bonne nouvelle, je pense que c'est complètement différent.
En fait, c'était un problème de stérilet. La sage-femme m'a remis le stérilet après le deuxième. Je continuais toujours à l'allaiter, donc j'avais toujours pas de retour de couche. 4 mois après avoir arrêté l'allaitement, j'avais toujours pas de règles. Et puis je commençais à être très triste dès que je lisais même un article sur l'attaque des framboisiers par des insectes. Enfin, je commençais à être un peu bizarre. Et par contre, mon corps disait rien à part ce retour de couche qui ne revenait pas. Et bon, moi, comme j'ai un cycle irrégulier, je ne me faisais pas trop de soucis. Et puis bon, à un moment, je me suis dit quand même, là, toute cette émotivité, il y a un truc qui ne va pas. Mais j'avais rien dans le corps, j'avais rien du tout qui trahissait quoi que ce soit. Du coup, bah, j'ai fait une prise de sang et bah, là, j'étais déjà à 3 mois, quoi. Ah non, mais moi, là, j'étais sciée, en fait. Je suis rentrée dans la salle d'écho et j'en suis sortie. Le ventre des 3 mois était là, quoi. J'ai un peu corrélé avec ce que j'avais vu peut-être une fois d'un déni de grossesse. J'ai eu vraiment cette impression de pouf, d'un coup, c'était arrivé là, alors que bah, c'était là, mais c'était bien caché.
J'étais pas bien. J'essayais de pas penser que j'étais enceinte, sauf que j'avais tellement la nausée. Du coup, j'avais envie de boire un coup avec les copines parfois le soir, et je pouvais pas, parce que ça passait pas, l'alcool. Il y a tout qui me rappelait tout le temps que j'étais enceinte.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/associationresonance. R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Retour à l'entretien.
Une IVG n'est pas en dehors de la vie des femmes, même s'il est encore trop souvent caché. Il s'insère dans des manières de voir son corps, de vivre avec et de trouver un sens à ce qui est ressenti. Au-delà de la grossesse non désirée et des démarches que cela implique, voir son corps capable de créer a pu impressionner certaines femmes que j'ai entendues. Ce corps qui change permet de réaliser qu'il est compétent.
On a du mal à croire qu'on puisse vraiment être féconde et avoir un bébé. Cette idée qu'on est peut-être stérile en fait et que nous on va pas... ça va pas être possible pour nous, parce qu'on le sait que ça vient de...
Mais c'est
on sait d'où viennent les bébés, mais
oui,
quand
oui.
On l'a pas expérimenté, on sait pas si on peut y croire, quoi.
J'ai noté des choses par rapport à ça. En gros, je suis enceinte depuis 3 semaines. J'y crois pas vraiment à la femme que je suis. Je pensais même pas vraiment que mon corps soit capable de créer ça. C'est plus par rapport à ce pouvoir, en fait, de femme, son corps, enfin... Parce qu'en fait, je savais très bien que c'était possible de tomber enceinte et tout ça.
Mais c'est plus ouais, au niveau de moi, comment, je sais pas, je pense que je m'appropriais mon corps, je m'appropriais ma féminité.
Il y a un petit truc qui m'a traversé l'esprit de « Ah ouais, ton corps, il fonctionne quand même. » Donc ces parties-là que tu vois pas à l'intérieur, mmh. Ben, elles sont au taquet et ton corps, il réagit. Et du coup, il y a quand même, je sais pas, eu un mini truc où je me suis dit « Ah, c'est stylé, mon corps, il fonctionne. Waouh !» Et cette claque de « Bah ouais, en fait... ton corps, maintenant, c'est plus un corps d'enfant et il fonctionne. Et oui, tu peux tomber enceinte. C'est horrible ce qui m'arrive, genre c'est trop relou parce que je vais avorter.
Cette réassurance par rapport à son corps peut entrer en contradiction avec le fait que la grossesse ne soit pas désirée. Cet état peut créer une dissonance entre ses ressentis et ses pensées. Ainsi, c'est toute une batterie d'émotions qui peuvent accompagner la réalisation que l'on est enceinte. De la culpabilité, de la colère, de la peur, mais aussi de la surprise. Il me semble important de rajouter que ces émotions se rattachent à un contexte spécifique, à des relations, à des situations de vie. J'ai entendu plusieurs femmes me raconter avoir vécu plusieurs IVG qui se sont passées de manière très différente en fonction de ce qui s'y jouait à ce moment-là pour elles. Les relations amoureuses, l'environnement social et familial, la situation géographique, l'encadrement des professionnels de santé, etc. Tout cela peut venir influencer la manière dont on vit une IVG.
Je fais un test de grossesse, j'ai vu que j'étais vraiment enceinte. Et là, par contre, ça a commencé à être très compliqué dans ma tête. Je savais pas quoi faire, en fait. Je sentais bien dans mon corps, mais dans ma tête, c'était pas vraiment possible. Je sentais bien que c'était là, mais j'y croyais pas vraiment. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme, voilà, entre dans ma tête et dans mon corps, ça disait pas trop la même chose, quoi. Pour moi, c'était, ouais, c'était aussi assez compliqué. Je me sentais un peu perdue, assez seule. Pas trop savoir quoi faire, quoi.
J'arrivais pas trop à réaliser, en fait, au début. Parce que j'avais déjà fait des tests de grossesse auparavant et c'était toujours négatif. Et là, du coup, de voir que c'était positif... Enfin, je réalisais pas trop, en fait. Enfin, j'étais avec ma sœur quand j'ai fait le test et tout. Et j'avais pas trop envie d'en parler au début... Et puis au final, je lui ai dit parce que j'avais besoin, je pense, de le dire pour le réaliser. Mais j'étais pas désespérée, j'étais pas mal ou quoi, juste j'étais un peu choquée parce que ça arrive qu'aux autres ou ce genre de choses.
Bah déjà, je m'y attendais tellement pas. À cette époque-là, en tout cas, comment dire, j'avais aucune, enfin, j'avais absolument pas de réflexion sur la maternité. Enfin, il y a des nanas qui savent très jeunes si elles veulent des enfants. Ou... Enfin, moi, j'étais vraiment très loin de ça. Enfin, voilà, ça m'avait pas effleuré. Du coup, quand ça m'est tombé dessus, j'étais d'autant plus. Enfin, je pensais que ça pouvait pas m'arriver, je suppose. Et puis, ouais, j'ai pris sur moi, mais sans doute parce que je me suis dit, voilà, j'ai fauté. Et puis, voilà, j'assume, quoi. Enfin. Je pensais ça, que j'avais fauté, quoi. J'avais oublié la pilule un soir et voilà quoi. Donc, fallait que j'assume.
J'ai plus vécu comme ayant fait une bêtise. Genre, juste d'avoir pris à la légère certaines choses dont j'étais quand même consciente de ce qu'elles pouvaient représenter et entraîner quoi. J'ai décidé de faire un test de grossesse et là, du coup, positif. Et là, je passais par une phase, mais genre, d'autoflagellation de ouf. Mais je me détestais, mais je me trouvais vraiment, je m'insultais de grosse conne quoi. Genre. Enfin, comme si je me divisais et que mon corps il était en mode « Mais tu me fais encore revivre ça, mais t'es sérieux, ça t'a pas suffi une fois, tu vois ?»
Parmi les personnes que j'ai interrogées, plusieurs personnes m'ont parlé d'un facteur dont je n'avais pas conscience au début, le niveau de fertilité. Il est communément visibilisé dans notre société en parlant des femmes qui cherchent à être enceintes. Il y a celles qui arrivent plus rapidement que les autres, et c'est perçu positivement puisque c'est désiré. Mais en dehors de ce contexte de maternité, une fertilité supérieure à la moyenne peut être à l'origine de situations particulièrement pénibles, comme le fait de retomber enceinte dans un laps de temps très court. Et ceci est d'autant plus difficile lorsqu'on ne parvient pas à trouver une méthode contraceptive qui nous convient.
Tout le monde me disait que c'était pas possible, mais moi je me disais, allez, pas une troisième fois.
C'était trop proche de la précédente.
En plus, oui. Juin, ça a commencé en juin, du coup. Et l'autre, c'était en mars. Donc, c'était vraiment tout proche. Je me suis dit, c'est pas normal, de nouveau, on n'a vraiment pas eu de chance. Dans ma tête, c'était ça. J'en ai parlé à quelques personnes autour de moi, mais pas beaucoup du tout, parce que j'avais honte que ça se passe une deuxième fois. Je me sentais irresponsable. Enfin, je me sens encore irresponsable. Je le dis en rigolant, parce que c'est plus facile de le dire en rigolant, mais j'ai honte de dire que j'ai avorté trois fois. Je le dis pas à beaucoup de gens, mais comme je le dis, je suis obligée d'avoir un rire nerveux à chaque fois, tellement c'est... Je trouve ça ridicule de se dire, waouh, allez, j'ai même pas 16 ans, ou t'étais moins au courant de ton cycle, ou de... J'en sais rien, non, je suis beaucoup plus âgée, je suis hyper consciente de plein de choses, et... Enfin bref, donc j'ai vraiment honte.
Et puis là, d'un coup, enfin, mais... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas être de nouveau enceinte. Et là, en fait, par contre, ça a été très difficile. Parce que... Bah déjà, heureux. Donc au bout d'un moment, en fait, c'est lourd. Ouais. Parce que là, pour le coup, je te jure qu'on faisait ultra attention. Et en fait, une fois, il m'a pénétrée. On a fait, je sais pas, 2 allers-retours maximum. Et bah, je suis tombée enceinte. Et en fait, c'est là qu'on m'a expliqué qu'en fait, comme mes hormones, en fait, n'ont jamais eu le temps de redescendre. Et c'est pour ça que j'ai gardé un taux de fertilité ultra élevé.
Vraiment, ouais.
Mais là, enfin, à ce stade-là, c'est hallucinant, quoi.
Pour moi, en tant que femme fertile, j'ai dû apprendre à vivre avec le risque de tomber enceinte et à m'emparer des méthodes à ma disposition pour prévenir une grossesse non désirée. En revanche, je n'ai pas l'impression d'avoir été préparée à vivre une IVG. Un peu comme si, une fois qu'on voyait le test de grossesse passer au positif, on était jeté dans la fosse aux lions. Les lions pouvant autant être nos pensées, nos ressentis ou les autres. Aussi, c'est pourquoi je veux ici avant tout parler du rapport au corps et du rapport aux émotions. Tant pour montrer ce qu'il s'y joue, ou encore pour potentiellement aider des personnes, mais surtout pour faire exister médiatiquement ces vécus dans leur globalité. J'espère que ce premier épisode vous aura intéressé et que vous avez été autant touché par le récit de ces femmes que j'ai pu l'être. Je les remercie à nouveau de m'avoir fait confiance. Mais après, que se passe-t-il ? Que doit-on faire ? Vers qui se tourner ? Dans le prochain épisode, on verra comment se construit la décision de l'IVG, puis les premières démarches à la rencontre du corps médical. Nous verrons aussi comment le poids de la société peut peser sur les personnes qui veulent avorter et les manières dont l'entourage peut réagir en soutenant ou non les femmes que j'ai rencontrées.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, merci à Margot, au planning familial, à Âme Sud, à Mediapop Sud Ardèche, et bien sûr à toutes ces femmes qui ont bien voulu apporter leur témoignage. Alors, comme précisé par Margot, cette série d'émissions sera composée de 5 épisodes. Nous vous tiendrons au courant quand et où ils seront disponibles. Interview menée par Margot Huil. Mixage et musique par Indie Grande. Si vous voulez réécouter cet épisode et le partager dans vos réseaux, rendez-vous sur le www.mixcloud.com/sur-la-route. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/associationresonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.